Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Crozat et Audrey Guélou.
Si un jour vous êtes amené à débattre des enjeux politiques d'Internet avec quelqu'un qui est plus compétent que vous techniquement, mettons par exemple que vous essayez de soutenir une opinion qui ne soit pas la mienne lors d'une discussion avec moi, vous n'avez aucune chance. Même si vous avez raison, c'est pas le problème. Il me faudra à peu près 3 minutes pour vous embobiner techniquement dans n'importe quoi et vous noyer. Et si vous n'êtes pas capable de repérer à quel moment je vous mens, à quel moment j'essaye de vous enfumer, il n'y a pas de discussion possible. Exactement de la même manière qu'on ne peut pas débattre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression qui va avec si on ne sait pas lire, simplement parce qu'on ne comprend pas l'enjeu. Et bien de la même manière, aussi longtemps que vous êtes des illettrés du numérique, vous n'avez aucune chance de pouvoir mener une réflexion politique autour d'Internet. Et il se trouve que c'est un des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle.
Bonjour à toutes et à tous, c'était Benjamin Bayard lors d'une conférence à Sciences Po en 2010, conférence intitulée « Qu'est-ce qu'Internet ?» que l'on peut retrouver sur aperi.tube, et conférence qui va donc introduire le sujet d'aujourd'hui, le fonctionnement d'Internet. Donc bienvenue à tous sur le cours émission WE01, écrire, communiquer et collaborer sur le web. Donc je suis Stéphane Crozat, accompagné aujourd'hui d'Audrey Guélou, de Léo à la réalisation, et également on a un invité dans le studio, donc Quentin et Garance, et comme je l'ai déjà dit, à distance, au téléphone, Stéphane Bortmeyer. Alors Stéphane Bortmeyer, on a vraiment le plaisir et l'honneur de le recevoir, est ingénieur réseau à l'AFNIC, un des pionniers français de l'Internet, défenseur des libertés informatiques s'il en est, et notamment à travers la thématique du chiffrement. Si à l'issue notamment de cette émission vous êtes intéressé par approfondir un petit peu ses travaux, eh bien vous pourrez retrouver son blog sur bortmeyer.org et le dernier livre qu'il a écrit aux éditions CF Éditions, Cyberstructure, l'Internet, un espace politique. Bonjour Stéphane, est-ce que cette présentation te convient ?
Oui, bonjour. Oui, tout à fait, c'est une présentation tout à fait valable. On peut commencer directement ?
Alors on va bientôt commencer, je vais me permettre d'annoncer ton plan et puis Audrey va donner quelques indications aux auditeurs et aux étudiants pour éventuellement poser des questions. Donc ton plan rapidement aujourd'hui, tu vas nous parler d'Internet et de la notion de couche et des acteurs qui font l'Internet. En partie 2, la dimension physique avec notamment les câbles et les routeurs. En partie 3, tu nous parleras des protocoles. En partie 4, de la thématique de l'interconnexion, et enfin en partie 5, des applications.
Pour approfondir ce dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez donc aller sur librecours.net. Vous retrouverez aussi les émissions, les cours émissions sur Peertube, sur l'instance aperi.tube, chaîne Upload. Et comme d'habitude, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser l'outil de messagerie instantanée Mattermost à l'adresse team.picasoft.net, équipe W01, le canal live. On est aussi sur le pad pad.picasoft.net/p/W01. Et enfin, vous pouvez également poser vos questions sur Twitter et Mastodon via le hashtag, avec le hashtag Upload.
Merci Audrey. Et donc Stéphane, eh bien, si tu es prêt, tu peux attaquer pour la première partie que tu as intitulée « L'Internet est fait de couches et comprend de nombreux acteurs ».
Oui, parce que Benjamin Bayard l'a bien rappelé, c'est absolument nécessaire évidemment de comprendre des choses sur le fonctionnement de l'Internet si on veut participer aux discussions sur le progrès démocratique dans l'Internet. On entend parfois des bêtises du genre « mais il n'y a pas besoin que M. Michu comprenne l'Internet, il est juste à appuyer là où on lui dit d'appuyer et c'est bon ». Avec un tel raisonnement, on n'aurait jamais appris à lire, puisqu'après tout, au Moyen-Âge, si on avait dit qu'un jour il faudrait que tout le monde lise pour participer à la vie de la cité, probablement les seigneurs et les curés en face auraient beaucoup ri en disant « qu'est-ce que vous voulez que le paysan il lise ? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui serve ?» C'est le même genre de remarque réactionnaire qu'on a aujourd'hui quand on dit qu'il faut que tous les citoyens comprennent des choses sur l'Internet. Alors, quand on dit comprendre, ça ne veut pas dire comprendre au sens où un ingénieur informaticien ou un spécialiste des réseaux le connaît. Évidemment que le citoyen normal, il ne va pas pouvoir atteindre le niveau de compétence d'un professionnel. L'important n'est donc pas de tout comprendre, l'important c'est de comprendre suffisamment de choses pour participer intelligemment aux discussions. Ce matin, sur France Inter, on a encore eu un ministre qui racontait n'importe quoi sur la sécurité, sur les interceptions, les écoutes et le rôle des GAFA, enfin mélangeant tout, la catastrophe complète qui est malheureusement trop fréquente dans le discours sur Internet. Donc on va essayer de ne pas faire comme ça, on va essayer d'apprendre un certain nombre de choses sur Internet. Le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué. L'Internet, ce n'est pas juste une technique, c'est par exemple comprendre protocole TCP/IP, c'est souvent présenté comme comprendre Internet. Non, c'est qu'une toute petite partie. Il y a beaucoup de choses dans Internet. C'est un système socio-technique très riche. Et donc, le comprendre nécessite un peu déjà de s'organiser, de voir un peu les différentes parties. Et pour ça, il y a plusieurs façons de gérer cette complexité, de naviguer dedans. Une des façons qui est courante dans les réseaux informatiques, c'est le modèle en couches. C'est-à-dire qu'on va découper l'Internet en plusieurs couches, alors qu'ils ne correspondent pas à une réalité ni physique, ni légale et autres. C'est simplement un moyen de gérer la complexité en découpant le problème en plusieurs sous-problèmes. Donc, dans ce modèle en couches, on va mettre dans les couches supérieures, tout en haut, l'utilisateur final, le monsieur tout le monde, madame Michelu, ce qu'on veut, et tout en bas, ce qui est le plus concret, ce qui est le plus physique, le matériel. Et il y a tout un tas de couches intermédiaires, et selon les découpages, on pourrait voir 3 couches, 5 couches, 7 couches. Rappelez-vous que ça n'a pas de réalité physique ou légale, ces couches, c'est juste un moyen de traiter la complexité de l'Internet. Donc, par exemple, là, comme on a un temps limité, je vais me limiter à 3 couches. La couche physique, la couche des protocoles, la couche logicielle et la couche des applications. Donc, la couche physique, c'est tout ce qui est qu'on peut toucher. Alors, j'exagère un peu parce que là, j'utilise un téléphone DECT, donc c'est des ondes électromagnétiques, donc on ne les voit pas, on ne peut pas les toucher. Mais la plus grande partie des communications dépend quand même de choses physiques qu'on peut toucher, les câbles, les équipements intermédiaires. Et puis, au-dessus de cette partie physique, il y a par contre une partie purement logicielle, qu'on peut appeler la couche des protocoles, c'est-à-dire les différentes règles que suivent les logiciels pour arriver à communiquer. Règles qui sont complexes, elles ne sont pas purement techniques. Il y a aussi des règles business là-dedans. Et puis, en haut, la troisième couche de mon modèle en couche simple, c'est la couche des applications, ce qui est au contact des utilisateurs, ce que voient les utilisateurs, parce que s'ils se connectent à Internet, c'est bien pour utiliser des applications. Par exemple, regarder des séries sur Netflix, ce genre de choses. Un point important de l'Internet qui est souvent oublié, c'est qu'il y a une grande variété d'acteurs. Très souvent, Internet est simplifié. Vous écoutez le discours d'un ministre, par exemple, ou de beaucoup de journalistes, et ils voient de l'Internet que ce qui est sur leur écran, Google, Facebook, et ça s'arrête à ça. En fait, la réalité, c'est qu'il y a un très grand nombre d'acteurs différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur un pied d'égalité, tous ces acteurs. Loin de là. Google, par exemple, a certainement plus de poids que, par exemple, la petite société qui fait le logiciel de messagerie Signal ou que le petit opérateur Internet dans un endroit un peu perdu. Donc, il n'y a pas d'égalité, mais il y a quand même une grande variété d'acteurs. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une organisation hiérarchique, il n'y a pas un chef qui domine l'Internet, il n'y a pas de régulateur de l'Internet, il n'y a pas de président de l'Internet. Tous ces acteurs travaillent ensemble par la force des choses, puisque un réseau, c'est quand on est plusieurs. Faire du réseau tout seul n'a aucun intérêt. Et en même temps, peuvent être concurrents, voire parfois franchement ennemis, quand il s'agit d'État, par exemple. Et c'est l'interaction complexe de tous ces acteurs qui fait l'Internet. Donc il ne faut pas seulement l'analyser sous l'angle technique. Internet ne se définit pas par TCP/IP ou par le datagramme ou par quoi que ce soit de ce genre. Ça, c'est juste des détails techniques. Internet se définit par l'interaction de cette grande variété d'acteurs.
Merci Stéphane pour cette première introduction.
En reliant les ordinateurs en réseau, on pourrait partager le travail entre plusieurs universités, s'envoyer des programmes et éviter les doublons. Bref, on pourrait travailler plus efficacement et plus rapidement.
Le problème, c'est qu'à l'époque, ce qu'on savait faire au niveau des réseaux, c'était des systèmes à commutation de circuits.
C'est le principe du téléphone de l'époque, hein, quand on veut communiquer avec une personne, on la relie, entre guillemets, physiquement avec cette dernière. Comme s'il y avait un câble qui nous relie avec elle. Et dans cette configuration, il faut passer sur un autre circuit pour communiquer avec une autre personne, et si je veux discuter avec deux personnes en même temps, eh ben, c'est pas possible. À moins d'utiliser plusieurs lignes en même temps.
De fait, les réseaux informatiques ont deux problèmes.
Avec ce système de commutation de circuits, si je veux communiquer à plus de deux ordinateurs, je dois passer par un ordinateur central, qui lui dispose d'une liaison unique avec les autres ordinateurs. Vu que le matériel de l'époque n'est pas le plus fiable, ce genre de réseau risque de tomber souvent en panne.
L'autre problème, c'est que je peux faire ça qu'avec du matériel de la même marque. Ben ouais, ils sont pas cons les types.
Pour créer un réseau avec toutes les universités, il aurait fallu acheter du matériel de la même marque et créer un réseau centralisé. C'est pas super pratique.
Conscient de ce problème, l'agence des projets de recherche avancée de la défense, la DARPA, file du fric afin de trouver une solution pour créer un réseau plus fiable.
Et c'est aussi ce que fera la France de son côté, qui va créer un programme qui s'appellera le plan calcul.
ARPANET mettra du temps à se mettre en place. Mais l'idée de base est simple. Au lieu de partir sur un système centralisé, on va faire en sorte que l'intelligence soit en périphérie.
L'idée est de créer un maillage. À chaque nœud, on va placer des ordinateurs beaucoup plus simples, donc beaucoup plus fiables et moins chers à fabriquer et à entretenir. Ces ordinateurs, appelés IMP pour Interface Message Processor, ancêtres des routeurs actuels, vont s'occuper de distribuer les paquets.
Un paquet, c'est une sorte de boîte dans laquelle on met l'information.
Alors, on vient d'entendre un extrait d'une vidéo de Monsieur Bidouille qui date de 2017, donc qui s'appelle Internet partie 1 ARPANET. Donc, en effet, ça, Monsieur Bidouille nous explique la naissance d'ARPANET. Donc, ARPANET, qui est un acronyme donc, du premier réseau à transfert de paquets et de données qui a été conçu aux États-Unis par la DARPA, qui a été lancé en 1962, mais opérationnel en 69. Alors, Monsieur Bidouille explique que voilà, ces paquets circulent dans un réseau dont le principe de base est la décentralisation avec une intelligence en périphérie. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans ce cas-là, dans le contexte du fonctionnement d'Internet? Qu'est-ce que cela signifie, une intelligence en périphérie?
Ça signifie que, autant que possible, tous les équipements intermédiaires du réseau vont se limiter à ce qui ne peut pas être fait ailleurs que par eux, c'est-à-dire passer des éléments d'information, des paquets de données de l'un à l'autre. Les services au-dessus, comme la fiabilité, réémettre les paquets qui se sont perdus, comme la vérification de leur intégrité, comme leur confidentialité, comme tous les autres services, en fait, seront faits aux extrémités du réseau. Une des raisons étant que faire évoluer un réseau, c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, alors que l'innovation peut se faire aux extrémités, c'est-à-dire dans la machine que vous avez là en ce moment devant vous. C'est pas par hasard que les opérateurs de télécommunications traditionnels, les telcos, défendaient au contraire un modèle où c'était le réseau qui était omniscient, qui faisait tout, et il n'y avait que des périphériques bêtes, dumb en anglais, qui étaient aux extrémités. L'Internet a complètement renversé les choses en mettant au contraire le moins de fonctions dans le réseau lui-même et le plus de fonctions dans les équipements, d'autant plus que les progrès rapides de l'informatique ont rendu ces équipements d'extrémité de plus en plus perfectionnés, de plus en plus capables. Donc effectivement, un des points essentiels de l'Internet, c'est ce choix d'un réseau bête. Je me souviens du PDG d'Orange disant dans un forum qu'il déplorait que certaines personnes voulaient que Orange ne soit qu'un tuyau. Eh bien oui. Justement, il avait bien résumé, il le déplorait, mais il l'avait bien résumé, c'est effectivement ce que demande l'Internet et demande les utilisateurs, un opérateur comme Orange qui ne soit qu'un tuyau et toutes les fonctions, ouvrez les guillemets, intelligentes, faites aux extrémités.
Alors Stéphane, on peut peut-être enchaîner justement avec la seconde partie et donc le niveau physique, les câbles, les routeurs.
Alors le physique... Et on tend un peu l'oublier de nos jours. La tendance générale de notre société, c'est de considérer que ce qui est matériel, ce qui est physique, c'est pas bien. Le mieux, c'est le virtuel. La finance, c'est un bon exemple d'un monde pas mal déconnecté où on travaille dans le virtuel. Puis il suffit de voir quelles sont les personnes qui sont invitées à l'Élysée pour les cérémonies, pour les prises de photos. C'est des gens qui travaillent dans le virtuel. C'est rarement des gens qui travaillent de leurs mains ou qui travaillent sur du matériel. Mais l'Internet ne peut pas travailler dans le virtuel. L'Internet, contrairement à une présentation courante qui est faite des réseaux informatiques, C'est pas du virtuel, au contraire, c'est extrêmement concret, extrêmement physique. Et l'incendie du centre de données d'OVH à Strasbourg, il y a un mois, nous l'a rappelé. Et il n'y a pas de cloud. C'est une invention marketing, ce cloud, ce nuage virtuel où il y aurait quelque part nos données. Il n'existe pas, il n'y a que du matériel, que des choses concrètes, pas du tout nuageuses, et qui sont vulnérables à des problèmes comme les incendies. Donc cette couche physique, ce qui est le plus matériel, sur l'Internet, c'est en général des fibres optiques, parce que c'est ce qui est le plus résistant aux perturbations, ce qui transporte le plus de données par seconde. Donc l'essentiel des communications sont sur fibres optiques. Les autres modes de communication sont marginaux ou relégués aux extrémités. Là, mon ordinateur en ce moment est connecté en Wi-Fi, mais c'est juste pour franchir quelques mètres jusqu'au routeur qui ensuite passera dans la fibre optique. Donc le gros de l'Internet, ce sont des fibres optiques, soit terrestres, enterrées, aériennes, dans les égouts, dans les tunnels du métro, ou sous-marines, et à ce moment-là, simplement posées au fond de la mer. Ces fibres ne sont pas un espace public, elles sont quasiment toutes propriétés d'acteurs privés. Il n'y a pas l'équivalent du réseau routier qui est public dans la plupart des pays. Là, on a un réseau qui est essentiellement privé et qui est donc très inégalement réparti. Beaucoup de fibres entre l'Europe et les États-Unis, il y a un gros trafic, ou dans certains endroits en Extrême-Orient, et à d'autres endroits, beaucoup moins. Il y a même des pays qui n'ont qu'un seul accès externe. Et si par malheur, cette fibre est coupée parce qu'un bateau a jeté son ancre un peu imprudemment, ou parce qu'il y a eu un tremblement de terre, ou n'importe quel autre phénomène, n'importe quel autre accident, le pays entier peut se retrouver très handicapé. Donc la carte des fibres reflète la carte de la richesse. Et alors c'est cher aussi de mettre une fibre, hein. C'est pour ça que beaucoup de pays n'ont qu'un seul accès. C'est tellement cher qu'il y a même très peu de sociétés qui peuvent se permettre à elles seules de passer une fibre. Beaucoup de fibres sont posées par des consortiums de sociétés où on met ensemble l'argent et on fait appel à un opérateur qui embarque le câble dans un navire câblier et va le jeter au fond de la mer. C'est un peu plus compliqué, hein. Je simplifie, mais le principe général de la connectivité physique des couches basses, c'est ça. J'insiste sur ce rôle des fibres parce que là encore, tout le discours sur le virtuel tend à les faire oublier. Par exemple, avec en ce moment tout le discours marketing sur la 5G, on vous explique que ça va améliorer les choses, ça va aller plus vite, ça va être mieux, etc. En oubliant qu'en fait, votre téléphone, il communique en 5G juste avec une station de base, et ensuite cette station de base, elle est reliée au reste du réseau par des fibres optiques. Comme tout le monde, la 5G n'est qu'une petite partie du trajet qu'occuperont vos communications. Ensuite, une fois qu'on a des câbles, il y a des décisions à prendre parce que les câbles, quand ils arrivent, ils sont connectés à beaucoup d'autres câbles et il y a beaucoup d'endroits où on peut aller. Vous êtes, par exemple, à Paris et puis vous voulez envoyer un message aux États-Unis. À un moment, il faudra choisir de prendre le câble transatlantique plutôt qu'un autre câble. Ça, c'est le rôle des routeurs. C'est des ordinateurs spécialisés. En fait, vous pouvez même utiliser comme routeur un ordinateur normal, habituel. Mais enfin, c'est pas très fréquent. Mais si, par exemple, vous utilisez le partage de connexion 4G depuis votre téléphone, votre téléphone agit comme un routeur dans ce cas-là, qui route entre la 4G et le Wi-Fi pour les autres machines. Donc, voilà un exemple simple. De même, la modeste box que vous avez chez vous dans votre appartement, votre maison, est typiquement un routeur aussi. Bon, bien sûr, ceux des gros opérateurs qui connectent les câbles sous-marins entre eux sont des routeurs nettement plus gros, nettement plus chers, mais ce sont quand même des ordinateurs avec les avantages et les inconvénients des ordinateurs. Il y a du logiciel dedans, il y a des failles de sécurité, il y a des bugs, il y a tous ces plaisirs que l'on doit à l'informatique se retrouvent également dans les routeurs. Hein, on oppose parfois le matériel et le logiciel, un routeur, c'est beaucoup. Il y a un matériel pour se connecter, mais il y a aussi beaucoup de logiciels pour prendre les décisions. Voilà donc les deux composants essentiels de la partie physique, les câbles et les routeurs. On peut ajouter qu'il y a aussi à certains endroits des serveurs, des ordinateurs qui assurent un service dont vous allez avoir besoin, mais ça, on repoussera ça plus tard. C'était ces serveurs qui ont souffert lors de l'incendie du centre de données d'OVH à Strasbourg il y a un mois, qui a rappelé que tout ce matériel est évidemment sensible aux problèmes matériels classiques.
Nous en dire un mot juste après.
Admettons que mon fournisseur d'accès Internet s'appelle FAbox et que j'ai choisi une offre grand public classique. À la maison, tous les ordinateurs sont donc connectés en Wi-Fi au réseau de ma box. Mon problème, c'est que je n'ai pas beaucoup confiance en mon fournisseur d'accès. Je sais par exemple qu'il a la capacité d'épier tout ce que je fais sur Internet et d'éventuellement revendre ces informations. Je sais également qu'il peut décider du type de service Internet que j'ai le droit d'utiliser, on parle en général de ports bloqués, et qu'il peut décider des sites que je peux consulter ou non, on parle en général dans ce cas, de DNS menteur. Enfin, je sais qu'il peut prendre l'initiative de favoriser certaines destinations sur Internet, par exemple pour rendre plus performants ses propres services ou ceux de partenaires qui paient pour ça. Et cette fois-ci, on parle alors en général d'atteinte à la neutralité du net. Mais en définitive, mon plus gros problème, c'est que je suis incapable de savoir exactement ce qu'il fait avec mon accès à Internet. Non seulement parce qu'il ne propose aucune charte éthique à ces sujets, mais aussi parce que son fonctionnement est totalement opaque. Par ailleurs, les conditions générales d'utilisation que j'ai signées avec lui ne l'engagent à rien non plus à ce niveau, sauf éventuellement à officiellement ne pas être respectueux de ma vie privée. L'objet de cette présentation, c'est de vous faire découvrir une solution simple et efficace à ces problèmes. Une association qui défend une vision du réseau Internet et du respect de la vie privée qui me correspond m'a fourni un petit boîtier. Nous l'appellerons la brique Internet. Tout ce que j'ai à faire, moi, pour la faire fonctionner, c'est de la brancher sur ma box Internet. À partir de cet instant, un nouveau réseau Wi-Fi est disponible. Je peux donc connecter tous les ordinateurs de la maison au Wi-Fi de la brique, plutôt qu'à celui de la box de mon fournisseur d'accès que j'utilisais avant. En étant connecté directement à la brique, mon fournisseur d'accès n'est plus en capacité de voir ce que je fais avec mon accès à Internet. En réalité, il ne verra plus que du trafic chiffré qui est à destination d'un serveur de mon association, on appelle ça un tunnel VPN. Par conséquent, il ne peut plus non plus ni filtrer ni brider mon accès à Internet. Mon fournisseur d'accès est donc désormais en réalité mon association, et mon fournisseur d'accès Internet n'est plus qu'un opérateur de plus sur Internet qui me permet de m'y relier.
Alors, on vient d'entendre Jérôme Coste nous parler de la brique Internet, donc dans une vidéo publiée sur vidéo.plaoud.fr en licence CC by NCND. Alors, Jérôme Coste donc, nous parle d'une brique Internet. Alors, si la brique est une image, vous insistez, Stéphane, sur la matérialité d'Internet, sur eh bien, ce qu'implique et ce que coûte la pose de fibres optiques et de câbles sous-marins pour connecter le monde entier. Alors, justement, comment se décide cette pose de câble? Qui va décider qu'un navire va jeter un câble ici ou là? Comment est-ce que toutes ces organisations se mettent d'accord? Comment se passe cette organisation? Est-ce qu'il y a la barrière du coût à une influence sur le choix, justement, la pose de ces câbles? Comment est-ce que ça s'organise?
C'est un marché qui n'est pas spécialement régulé. Si vous avez de l'argent, vous pouvez passer des câbles. Alors, pour les câbles terrestres, là, par contre, on passe dans un espace public qui est souvent très contrôlé. Et c'est pour ça que souvent, les poseurs de câbles terrestres utilisent des infrastructures existantes, les égouts, les tunnels du métro, les voies de chemin de fer, parce que c'est un espace qu'ils contrôlent déjà. Ils ont déjà la possibilité d'y passer les câbles qu'ils veulent. Et puis, ça évite les travaux de génie civil, faire des trous dans la chaussée, qui sont coûteux et... on a dit fortement régulé. On ne peut pas faire des trous dans la chaussée comme ça, comme on a envie. Donc là, sur la partie terrestre, c'est effectivement plutôt contrôlé, à juste titre d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un enjeu compliqué. On le voit dans les réseaux d'initiatives municipales, par exemple, quand une ville veut avoir un réseau à elle, et que souvent des opérateurs essayent de placer leur réseau en disant « mais utilisez juste le nôtre, il n'y aura pas de problème ». Et en fait, il faut bien lire l'étiquette du contrat, c'est pas toujours si simple que ça. Par contre, pour les câbles sous-marins, c'est un espace qui est à tout le monde, il n'y a pas spécialement de régulation, vous pouvez poser les câbles sous-marins, vous, demain, si vous avez envie. Alors c'est très cher, il faut un navire câblier, il faut fabriquer le câble, évidemment, il faut un navire câblier, du personnel spécialisé, et c'est là, le principal régulateur est le coût. C'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, non, ça n'est pas organisé à un niveau mondial. J'avais dit, il n'y a pas de président de l'Internet, il n'y a pas d'organisation qui, au niveau mondial, pourrait regarder la carte et dire, tiens, il manque un câble ici, ça serait bien de le mettre. Soit les gens soit une entreprise privée voit son intérêt à mettre un câble à cet endroit-là et elle le fait, soit si elle ne le voit pas, personne ne va vous aider. Donc si vous êtes un pays pauvre, par exemple, ben, vous restez pauvre.
Merci Stéphane pour cette précision et donc je t'invite à poursuivre avec la troisième partie et donc de nous parler de la couche des protocoles.
Alors les protocoles, c'est, à certains égards c'est la couche la moins connue parce que le matériel, tout le monde a l'impression qu'il peut s'y connaître en matériel, on voit du matériel, on peut le toucher. Et puis les applications, là aussi tout le monde a l'impression qu'il connaît puisque on utilise tous des applications, on utilise tous un navigateur web, on regarde tous de la vidéo, on échange des messages, on lit Wikipédia. Entre les deux, la couche des protocoles paraît mystérieuse. C'est ni du matériel qu'on peut toucher avec ses doigts, ni des applications dont on comprend l'utilité. Mais cette couche est essentielle parce qu'elle détermine ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire, comme dans le témoignage sur la brique Internet qu'on vient d'entendre. Les gens qui sont dans, les acteurs qui sont dans cette couche des protocoles ont un pouvoir sur ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Donc c'est quoi un protocole ? Le terme vient de, des relations humaines, hein, simplement. Vous vous êtes invité chez la reine d'Angleterre, il y a un protocole à suivre, vous devez, pour lui adresser la parole, pour lui serrer la main, pour tout ça, il y a des règles bien précises. Mais les humains, eux, sont capables de s'adapter, même la reine d'Angleterre, et donc il y a une certaine souplesse, souplesse que les ordinateurs ne connaissent pas. Là, il faut des règles absolument strictes et que, dont on ne dévie pas. Donc le protocole, c'est simplement les règles qui permettent aux machines d'échanger et qu'elles se comprennent. Par exemple, si je peux regarder sur mon ordinateur, qui est le système d'exploitation Ubuntu, le site web, par exemple, de la société Microsoft, utilise tout autre logiciel n'ayant aucun rapport, c'est parce qu'il y a des règles communes qui font que mon navigateur web sur mon PC Ubuntu va pouvoir parler au serveur qui est chez Microsoft, qui donc n'a rien à voir, été développé par une équipe complètement différente, mais qui suit les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes principes. Alors, on ouvre une connexion TCP, on envoie le mot-clé GET et puis le nom du fichier qu'on veut, ce genre de choses. Et si ces règles sont suivies par tout le monde, ça fonctionnera. Tout l'Internet, presque tout l'Internet repose sur cette idée d'avoir des protocoles communs. Et c'est ça qui permet de séparer le service et l'interface utilisateur. Pour regarder un site web, je peux utiliser aussi bien le navigateur Firefox, que Chrome, que Edge, et ça va marcher normalement pareil, de la même façon pour envoyer du courrier électronique, quel que soit le logiciel que j'utilise. Je peux utiliser Mutt et Postfix, et puis à l'autre bout, ils utilisent Outlook, et ça va marcher. Donc ça, c'est important. C'est pas le cas dans absolument toutes les applications sur Internet. Hein. Par exemple, le monde des messageries instantanées, au contraire, il n'y a pas de protocole commun, chaque application suit ses propres règles et est donc complètement incompatible avec les autres, donc vous n'avez pas le choix, par exemple, de logiciels différents pour la même application. Mais la plupart des services sur l'Internet ont un tel protocole qui permet justement d'avoir le choix de l'application. Le protocole le plus connu, parce qu'on le voit dans les adresses web, c'est HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est le principal protocole utilisé pour le web, qui est un des protocoles de la famille dite client-serveur, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui attend, qui ne fait rien en temps normal, il attend, et un client, votre navigateur web, qui va lui envoyer une requête et lui demander des informations. Mais il y a aussi des protocoles qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'Internet lui-même, moins applicatif, notamment quand on parle de la famille TCP/IP, c'est un terme qui regroupe tous les protocoles de base de l'Internet, dont les deux plus connus sont IP, Internet Protocol, qui désigne le format des paquets de données sur le réseau pour que tous les routeurs sur le trajet, même construits par des sociétés différentes, arrivent à router les paquets, c'est-à-dire à les transmettre à la bonne destination. Et puis l'autre protocole connu de la famille TCP/IP, TCP, Transmission Control Protocol, qui va être chargé de relancer les paquets perdus et de vérifier que tout est complet. Parmi les concepts essentiels de IP, il y a le fait que chaque paquet donc, est acheminé individuellement et peut être perdu. Rappelez-vous, on est dans un monde du matériel, du concret. Il n'y a aucun moyen de garantir qu'un signal qui part d'un endroit arrivera à un autre. Il peut y avoir un rayon cosmique qui passe à ce moment-là ou simplement un routeur qui est surchargé et qui commence à jeter des paquets. C'est donc le rôle de TCP de rattraper le coup en notant les paquets qui ont été perdus, en demandant leur réémission, mais en demandant intelligemment, pas en... parce que si on redemande trop vite, on va créer une congestion. Si par exemple un routeur est surchargé et qu'il perd des paquets, renvoyer les paquets tout de suite à toute vitesse ne va pas arranger la surcharge, au contraire. Donc cette lutte contre la congestion est une des parts importantes du protocole TCP. L'Internet continue à évoluer, autant IP, c'est le protocole de base de tout le monde et qu'on ne peut pas changer sans modifier tous les routeurs de la planète, autant TCP, lui, est seulement entre les deux machines qui communiquent, l'intelligence aux extrémités dont on parlait, et peut être remplacé par un autre protocole. C'est le cas, par exemple, des travaux actuellement sur le protocole QUIC, qui pourra peut-être remplacer TCP, au moins sur une partie de ses usages. Peut-être. On ne sait pas. Rappelez-vous, il n'y a pas de chef de l'Internet, il n'y a pas de direction de l'Internet, donc on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer, quels sont les choix qui vont être faits.
Les fournisseurs d'accès Internet considèrent les abonnés comme de la marchandise lorsque, pour négocier des échanges de données avec d'autres acteurs, ils se présentent et disent « j'ai tant de globes oculaires parmi mes abonnés ». C'est ça qu'ils disent. « Eyeballs », c'est le terme.
La fédération FDN, c'est une fédération de fournisseurs d'accès à Internet associatif. Et l'idée, c'est que ces fournisseurs d'accès à Internet-là, ils font ça de manière à but non lucratif. Ils font ça sans but de gagner de l'argent, de nourrir les actionnaires. Ce petit détail qui change, change tout. On s'astreint à ne faire que de l'Internet, à ne pas avoir de conflit d'intérêts. En fait, on n'a même pas vocation à être rentable. Et ça va beaucoup plus loin, parce que le projet de la fédération FDN est beaucoup plus large. Le projet de la fédération FDN, il est de construire l'Internet dont on a envie et de le faire ensemble, c'est-à-dire de prendre des citoyens que eux aient la main technique sur ce dernier bout d'Internet qui est si important politiquement, qu'ils aient le pouvoir de dire « non mais la porte, là, c'est nous qui allons la garder, nous ».
On vient d'entendre un extrait de « Soutenons notre Internet », donc la partie 2 sur 4, « Notre Internet, nos câbles », publié en 2021 sur tube.nuagelibre.fr. Et à l'écoute de Daniel Pitrolo et de Kota Tipeee, on comprend qu'il y a des enjeux politiques forts concernant ce que l'on appelle donc la gouvernance d'Internet et puis le contrôle des opérateurs et des nœuds du réseau pour que les citoyens puissent garder la main justement sur ce réseau. Alors vous disiez, Stéphane, que Internet était un réseau hétérogène, mais donc avec de grandes variétés de machines qui communiquent entre elles grâce à des protocoles communs, notamment donc TCP/IP. Alors pour comprendre justement les liens, les enjeux politiques qui sont liés à l'infrastructure d'Internet et puis au protocole, donc bien sûr, j'invite les étudiants, les étudiantes et puis les auditeurs et auditrices à aller lire votre livre, Stéphane, de Cyberstructure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voudriez bien nous éclairer sur les négociations qui ont lieu à propos des protocoles et en particulier sur l'importance d'avoir des formats ouverts et l'importance de cette notion d'interopérabilité sur Internet?
Oui, effectivement. Et le réseau, par définition, on ne le fait pas tout seul. Donc il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a des protocoles qui peuvent être modifiés plus facilement que d'autres. IP lui-même, étant donné qu'il est à la base de toutes les communications, est difficile à modifier. On le voit avec la difficulté qu'on a depuis 20 ans à migrer de l'ancienne version IPv4 vers la nouvelle IPv6, avec beaucoup d'acteurs qui traînent la patte et pas de chef de dictateur qui pourrait leur imposer. À l'inverse, quand le protocole ne concerne pas tout l'Internet, mais uniquement les extrémités, des déploiements peuvent être plus faciles. Ça avait été le cas du web, tout simplement. Le web n'avait pas été décidé par une autorité qui l'avait balancé d'en haut. C'est deux chercheurs au CERN, Tim Berners-Lee et Robert Caillot, qui ont inventé le web, qui ont mis en œuvre, programmé dans des applications et qui l'ont déployé. C'est ce qu'on appelle le côté sans permission de l'Internet, c'est-à-dire que tout le monde peut innover, créer quelque chose de nouveau et le mettre. Alors après, ça c'est bien pour les débuts. Après, il est souvent souhaitable, si on veut que ça soit vraiment utilisé par tout le monde, vraiment ouvert, que le protocole soit spécifié de manière un peu plus rigoureuse, qu'il soit normalisé, c'est-à-dire qu'il y a un organisme de normalisation qui prenne la peine d'écrire une norme technique détaillée du protocole, disant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les problèmes, les pièges, et que sur la base de cette norme, les programmeurs puissent mettre en œuvre des logiciels différents qui mettent en œuvre cette norme. Alors ça, c'est un une affaire difficile, parce qu'évidemment, chacun a son idée sur ce qu'il faudrait faire dans le protocole, ce qu'il faudrait mettre. Les discussions sont parfois houleuses. Il y a des intérêts financiers en jeu. Il y a aussi un intérêt politique. Le protocole de transport Quick, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, est désormais systématiquement chiffré. Il n'y a plus de communication sans chiffrement avec Quick, alors qu'avec TCP, on avait le choix. On pouvait faire soit non chiffré, le mode par défaut, soit mettre par-dessus une courte liste de chiffrement, par exemple avec le protocole TLS. Avec Quick, la question ne se pose plus, tout est chiffré et il chiffre même beaucoup plus de choses, y compris dans sa propre fonctionnement interne, si bien que les routeurs intermédiaires, les intermédiaires sur le réseau, n'ont plus une grande visibilité sur ce qu'est en train de faire le protocole. C'est un avantage pour les utilisateurs, c'est un avantage pour les extrémités de la communication, c'est un inconvénient pour les gens qui, sur le trajet, auraient bien voulu espionner, surveiller. Donc il y a toujours des enjeux politiques, économiques, qui sont derrière la conception des protocoles, ce n'est pas une question purement technique.
Merci Stéphane. Donc tu nous as présenté le niveau physique, les protocoles, et donc à partir de ce moment-là, les choses vont se connecter, et nous as-tu dit en partie 4, l'Internet émerge.
Oui, parce que évidemment, il n'est pas possible que chaque fournisseur d'accès Internet, chaque opérateur, se connecte à tous les autres. Il y a trop de monde et ça ferait beaucoup trop de fils. Prenons par exemple le réseau d'initiatives locales GIFI en Catalogne, comme ce que fait la FFDN dont on vient de parler. GIFI est un fournisseur d'accès Internet, mais créé par les utilisateurs et géré par eux, échappant à toute logique commerciale. C'est le plus gros réseau d'initiatives locales au monde. Et imaginons qu'un membre de GIFI, donc quelque part dans la banlieue de Barcelone, veut regarder par exemple le site web du journal Le Faso, qui est un journal d'information au Burkina. Clairement, il n'y a pas de liaison. GIFI n'a absolument pas les moyens de passer un câble de Barcelone à Ouagadougou. Et pourtant, ça marche. Alors, comment ça marche? C'est parce que il y a en fait tous les autres acteurs de l'Internet s'interconnectent entre eux. Chacun met des câbles vers d'autres acteurs, pas vers tous, ça serait impossible, mais chacun met des câbles vers d'autres acteurs et ensuite se met à échanger du trafic. Les deux routeurs, les deux opérateurs se trouvent face à face, connectés par un câble, et ensuite ils échangent du trafic, c'est-à-dire qu'ils disent à l'autre routeur, tiens, je sais comment aller à telle adresse IP, telle adresse IP. L'autre dit, ah ouais, mais ça c'est super, moi je sais aller à telle adresse IP, telle adresse IP. Avec cette information, les routeurs constituent une table de routage et finissent par savoir comment joindre toutes les adresses IP de l'Internet, puisque cette information est passée de routeur en routeur. Donc, tôt ou tard, les routeurs de GIFI en Catalogne vont apprendre comment joindre les adresses de l'hébergeur du journal burkinabé Le Faso, et réciproquement, ce qui permettra à la communication de s'établir. Mais là, donc ça, c'est cette interconnexion pour les opérateurs qui fait naître Internet. Internet, c'est pas IP, c'est même pas les câbles, c'est l'interconnexion entre opérateurs qui fait qu'on n'a pas seulement une communication locale, mais que moi, de chez moi, je peux, de mon petit ordinateur, envoyer et recevoir des messages avec la planète entière. Ça nécessite quand même que les opérateurs qui s'interconnectent soient d'accord. L'interconnexion ne se fait pas toute seule. Il faut passer le câble, il faut configurer les routeurs. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait un accord. Alors il y a deux sortes d'accords qui sont très répandus sur Internet entre opérateurs, qu'on appelle le peering, l'appairage en français, et le transit. Donc le peering, l'appairage, c'est une connexion entre deux paires, PAIR, c'est-à-dire des égouts. C'est deux opérateurs qui estiment qu'ils ont un intérêt mutuel à s'interconnecter. Et hop, on signe un accord, ou des fois on serre juste la main, enfin non, avec les gestes barrières on ne serre plus la main, mais on la serre virtuellement, et à partir de là la communication fonctionne. Alors évidemment, s'il n'y avait que du peering, ça serait parfait, ça serait merveilleux, mais l'Internet n'est pas un monde de gentils qui collaborent, c'est aussi un monde de concurrents, voire de concurrents assez violents. Donc, on ne peut pas tout gérer par le peering. Par exemple, si vous allez voir Orange et vous dites « Ah ben moi, j'ai mon petit réseau là chez moi, j'ai connecté 10 copains et les maisons de la rue, je voudrais maintenant qu'on se connecte et qu'on échange du trafic. » Orange va vous regarder de haut en disant « Non mais ça va pas, donc tu payes, hein, si tu veux te connecter, tu payes. » Et ça, c'est le deuxième mode d'interconnexion, c'est le transit, qui se fait non pas entre pairs, entre égaux, mais entre un client et un fournisseur, entre un petit et un gros. Et autant le peering ne vous donne accès en général qu'au réseau immédiatement du pair, autant le transit vous donne accès à tout l'Internet. Et logiquement, c'est plus cher. Donc tout le monde fait du est opérateur hein, sur Internet. Si vous avez un petit réseau local à la maison avec 3-4 machines et la brosse à dents connectée, vous êtes un opérateur, un tout petit, mais vous êtes un opérateur et vous avez un routeur, votre box par exemple, et vous avez un fournisseur de transit, c'est votre fournisseur d'accès Internet. Votre fournisseur d'accès Internet, à son tour, n'a probablement pas une connectivité mondiale, donc lui-même va avoir un fournisseur de transit plus gros. Par exemple, à la maison, je suis connecté par Free, le fournisseur de transit de Free, c'est Cogent, et ainsi de suite. Bon, et puis après, avec Cogent, ça s'arrête. Quand on arrive au très gros, ils s'appairent entre eux directement, puisqu'ils estiment avoir un intérêt commun à passer du trafic. Donc c'est ce mécanisme-là, un mécanisme qui est partiellement technique. Hein. Il y a le protocole BGP qui permet aux routeurs d'échanger des routes, de parler entre eux et de dire « je sais joindre telle ou telle adresse ». Mais il y a surtout une partie qui est d'ordre business, relation business, qui se passe plus ou moins bien selon les cas. On peut, en plus, l'Internet étant transparent, on dispose d'outils comme le fameux trace route qui permettent de voir quels sont le trajet suivi par des paquets. Par exemple, entre Giphy et Façonnet, qui est le fournisseur d'hébergement du journal Le Faso, on voit que le trafic passe entièrement par Cogent, un gros opérateur états-unien. Donc Giphy a Cogent comme fournisseur de transit, et Cogent, à son tour, est connecté directement à Façonnet. Des fois, c'est plus compliqué et on peut passer par plusieurs fournisseurs. L'Internet est un monde complexe, on l'a dit, mais qui est largement transparent, c'est-à-dire que ces relations, ces échanges de routes, ces trajets suivis par les paquets sont accessibles à l'utilisateur et sont visibles.
Quand on n'a qu'une adresse IP privée, on est un pur consommateur de contenu. On ne peut pas émettre sur la toile depuis une IP privée. Il faut nécessairement une IP publique. Je vous rappelle, n'importe quel ordinateur connecté à Internet, c'est basiquement dans la même boîte un émetteur radio et un récepteur radio, assez voisin d'une CB. Vous recevez tout le monde et vous pouvez parler à tout le monde. À partir du moment où vous supprimez son adresse publique, vous avez un pur récepteur. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un monde dans lequel vous pouvez vous exprimer à un monde dans lequel vous pouvez écouter. C'est structurellement, fondamentalement différent.
Alors Benjamin Bayard nous parle d'une IP publique donc, qui est nécessaire pour pouvoir émettre sur le réseau. Alors par exemple, donc émettre et par extension donc s'exprimer sur le réseau, ça peut être tenir un blog, donc avoir un blog accessible via une adresse IP publique. Mais par exemple, moi si je veux me rendre sur vos blogs respectifs, Stéphane et Stéphane, je vais me rendre sur boardsmeyer.org et sur aswimet.fr. Donc si je veux, à mon tour, si je veux écouter Benjamin Bayard et émettre sur Internet, comment se passe l'attribution d'un nom, d'une URL, d'un nom pouvant correspondre à mon adresse IP publique?
Alors pour le nom, parce qu'effectivement les adresses IP non seulement ne sont pas pratiques à manier, mais c'est plus des suites de chiffres, mais surtout elles ne sont pas stables. Mon blog est actuellement hébergé chez Gandhi, s'il migrait vers OVH ou Linode ou Etsner ou un autre hébergeur, ou si je le rapatriais à la maison et je le mettais sur une machine à la maison, l'adresse IP changerait et je n'aurais évidemment pas envie de prévenir tous mes correspondants. Donc le nom est tout à fait indispensable quand on veut avoir une présence en ligne qui ne soit pas dépendante de son hébergeur actuel. Les noms de domaine s'achètent ou s'obtiennent gratuitement. Il y a des fournisseurs gratuits comme EU.org de noms de domaine. Et on passe dans une particularité de l'Internet, c'est comme c'est extrêmement varié, il y a beaucoup de choix. et ça peut être compliqué pour l'utilisateur. C'est-à-dire que on dispose de tas de façons d'obtenir un nom de domaine et de l'associer à son serveur. Certaines sont réservées à des gens qui connaissent et qui passent du temps. D'autres sont plus accessibles à monsieur tout le monde, mais le choix est souvent ce qui est déroutant, voire effrayant pour les débutants. C'est un peu le prix de la liberté. S'il n'y avait qu'une seule façon d'héberger un blog géré par exemple par un organisme d'État, mettons qu'il y a un monopole et qu'il y a un organisme d'État qui gère une seule plateforme de blog, la même pour tout le monde. Ça serait certainement plus simple pour l'utilisateur. Mais on voit bien que ça entraînerait aussi des tas d'inconvénients en termes de capacité de contrôle, contrôle par l'utilisateur, de censure de l'autre côté. Et donc, en pratique, l'Internet est au contraire extrêmement varié, avec les avantages et les inconvénients qui viennent de cette variété.
Merci Stéphane pour cette précision, et je t'invite à entamer la dernière partie de ta présentation, donc sur la base de tout ce que tu nous as présenté. Donc l'Internet fonctionne, les utilisateurs, les opérateurs sont interconnectés, et donc à partir de là on peut construire les applications.
Oui, alors l'Internet, effectivement, l'utilisateur, monsieur tout le monde qui paye son abonnement mensuel, se connecter à l'Internet, c'est pas juste pour le plaisir d'ajouter des électrons ou des photons dans les câbles sous-marins, c'est pas non plus juste pour utiliser un command trace route pour voir par où les paquets passent. Ce qui l'intéresse, c'est des applications. Alors les applications, c'est ces logiciels qui vous servent à utiliser les choses sur Internet. Plus connu, c'est le navigateur web, à tel point que beaucoup de gens confondent le web et Internet et confondent leur navigateur avec le web. En fait, c'est juste un outil, juste un logiciel qui sert à accéder au contenu qui est sur les serveurs web. Il y en a plusieurs, pas assez. C'est un des problèmes du web actuel. Le pluralisme et le choix sont limités. Mais en fait, aujourd'hui, quasiment toutes les applications informatiques utilisent Internet. Maintenant, il y avait pendant longtemps des applications qui fonctionnaient en local. Aujourd'hui, il est très fréquent qu'il y ait besoin d'une connectivité Internet pour tout. On a vu par exemple dans l'incendie du centre de données d'OVH à Strasbourg qu'il y avait une application de contrôle d'une chaudière qui ne fonctionnait plus parce qu'elle avait besoin de parler à un serveur à l'autre bout de la France. Les gens qui avaient acheté une chaudière très perfectionnée avec une application sur le téléphone pour la contrôler se trouvaient tout à coup dans l'impossibilité de contrôler leur chaudière. Aujourd'hui, la plupart des applications, même si ça ne se voit pas explicitement, utilisent l'Internet, même quand c'est inutile, même quand c'est dangereux, parce que ça permet de plus de contrôle sur l'utilisateur, parce que ça semble plus simple, parce que c'est la mode, etc. Donc on a tout un choix d'applications, et donc ces applications, elles aussi, comme le fournisseur d'accès Internet dont parlait Benjamin Bayard, ces applications contrôlent aussi ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Si, par exemple, votre navigateur web a été programmé pour refuser de se connecter à tel ou tel service ou tel type de service, et c'est pas un cas purement théorique. Le secrétaire d'État au numérique, il y a quelques semaines, avait proposé cette idée pour lutter contre les contenus illégaux sur Internet, que ce soit dans le navigateur même que se trouvent les contrôles. Et il avait dénoncé à l'Assemblée le fait que le navigateur offrait trop de possibilités et permettait de voir des sites web illégaux. Donc on voit que les développeurs des applications, les programmeurs et programmeuses qui développent ces applications et les sociétés qui les payent, parce que dans un logiciel comme Chrome, le navigateur web de Google, c'est évidemment pas le programmeur individuel qui prend des décisions, c'est la société Google. Donc les développeurs d'applications ont aussi un pouvoir. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser de préférence des logiciels libres, de ces logiciels qui sont développés par des gens variés et divers, mais qui sont utilisables librement et surtout modifiables librement. C'est-à-dire qu'on a toute la technique qui permet de modifier le logiciel est accessible à tous et il n'y a pas d'obstacle technique ou légaux à la redistribution de versions modifiées, ce qui permet un peu plus de contrôle par les utilisateurs sur ce qui se passe. À l'inverse, les applications ne sont pas en logiciel libre, c'est une boîte noire, vous ne savez pas ce qu'elle fait, et l'expérience prouve que malheureusement, très souvent, c'est des choses négatives qu'elle fait. Alors, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de l'infrastructure, mais il y a aussi tout un tas de services que vous trouvez sur Internet, que vous voyez plus ou moins, mais qui jouent un rôle important. On a parlé des noms de domaine et du protocole qui est derrière, le DNS, qui joue aussi un rôle important. Par exemple, le principal outil de censure en Europe à l'heure actuelle passe par le DNS, c'est ce qu'on appelle les résolveurs DNS menteurs. Donc c'est aussi un élément qui ne se voit pas tellement quand on analyse le déplacement des paquets sur Internet, mais qui en pratique est incontournable dans l'utilisation de l'Internet. Et puis bien sûr, pour beaucoup de gens, des intermédiaires comme par exemple les grands réseaux sociaux centralisés comme ceux de Facebook, Instagram, etc., sont aussi un élément indispensable pour beaucoup de gens. Quand Facebook est en panne, c'est comme si l'Internet est en panne puisqu'ils n'envisagent pas de communication autrement que passant par Facebook. Mais il faut bien rappeler que ça n'est pas obligatoire. L'Internet, c'est pas le web, c'est pas Facebook. Souvent, les discussions politiques ou sociales tout le long à l'Internet se limitent en fait à parler de ces services centralisés, Facebook, Twitter, YouTube, etc., qui ne sont en fait font pas partie de l'infrastructure de l'Internet et qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Même chose, bien sûr, pour les moteurs de recherche, qui ne sont qu'un acteur, c'est un service possible, on peut les utiliser, ça a des intérêts, mais ça n'est pas du tout obligatoire et ce n'est pas la seule façon de désigner, de trouver du contenu sur l'Internet. Donc le point, si vous ne retenez qu'une chose, celle qui m'écoute, c'est que l'Internet offre des choix et qu'il faut, ça dépend de chacun de nous, d'utiliser ses choix ou au contraire de n'utiliser que ce que quelqu'un d'autre a choisi pour nous.
On utilise souvent ce terme de neutralité du net, qui est en fait un mauvais terme. Parce que neutralité dans nos sociétés, ça n'a pas une connotation vraiment positive, c'est une connotation neutre. Personne ne va aller mourir pour la neutralité, même pas en Suisse. En réalité, la neutralité du net, c'est l'universalité du net. C'est cette caractéristique absolument unique qui est liée à des événements historiques, mais de l'histoire de la technologie. C'est qu'il y a quelques années, on ne savait pas faire un Internet autre que neutre, autre qu'universel. Et c'est comme ça qu'Internet s'est développé. C'est le modèle de croissance d'Internet qui est basé là-dessus. Ça veut dire que tout le monde connecté à Internet a accès à tout Internet et peut participer à tout Internet. Tout le monde peut accéder à tous les contenus, tous les services, toutes les applications. Et tout le monde peut publier des nouveaux contenus et expérimenter, publier de nouveaux services et de nouvelles applications. C'est ça la neutralité du net, c'est ça le net neutre.
On vient d'entendre Jérémy Zimmermann nous parler de neutralité du net ou d'universalité du net, donc dans la Parisienne Libérée en 2014. Stéphane, nous avons deux questions d'étudiants, donc des questions un petit peu plus techniques. La première concerne les routeurs. Donc cette première question vous demande comment les routeurs apprennent à faire circuler les paquets, à savoir dans quelle direction envoyer les paquets et les données. Et puis la deuxième concerne justement les paquets de données. Comment se représenter ces paquets de données? Comment les définir concrètement?
Bon, la première question, comment les routeurs apprennent? Le routeur, quand il démarre, il connaît les réseaux qui lui sont directement connectés, c'est-à-dire tous les réseaux qui sont accessibles par des câbles qui sont branchés dans le routeur. On le configure pour parler à des routeurs distants avec lesquels ils vont échanger de l'information. Et il va apprendre comme ça des choses plus lointaines. En fait, le protocole BGP, qui est à la base de la création de l'interconnexion de l'Internet, c'est un protocole de rumeurs, c'est-à-dire que A dit à B, tiens, je sais loin de telle route. B va le répéter à C en disant, tu sais que A, il sait comment aller à tel réseau. C va le dire à D, et ainsi de suite. Et en quelques minutes seulement, souvent même moins, tout l'Internet est au courant. Donc le routeur mémorise tout ça. Genre, pour aller à telle adresse IP, je dois transmettre au routeur B, qui à son tour va dire, ah, pour cette adresse, je sais que je dois transmettre à C, et ainsi de suite. Alors c'est un système qui n'est pas parfait, qui a l'avantage d'être très souple, et de bien s'adapter à un cas où il n'y a pas d'autorité centrale qui pourrait par exemple dire à tous les routeurs voilà quelle est la carte, voilà par où il faut passer. Chaque routeur a une connaissance locale, lui et ses voisins, et ça fait que au bout du compte, à peu près tous les routeurs savent où il faut envoyer les messages à tout le monde. Donc le protocole derrière s'appelle BGP, Border Gateway Protocol, et c'est à bien des égards l'une des infrastructures les plus critiques et les plus sensibles d'Internet, même si l'utilisateur ordinaire ne le voit jamais. Ceux qui le voient, ceux qui travaillent avec, ce sont les gens qui gèrent les routeurs des opérateurs.
Et du coup, par rapport au paquet dont tu nous as beaucoup parlé, moi, quand je communique sur Internet, je n'ai pas l'impression d'envoyer des paquets. Tu vois, je ne fais pas des petits paquets d'informations. J'envoie un mail ou je consulte un site web, donc je ne reçois pas non plus des paquets. Tu peux nous en dire un ou deux mots de cette histoire de paquet ?
Oui, alors, le concept de paquet, c'est l'idée déjà de ne pas réserver de l'état sur les routeurs, sur les équipements intermédiaires, pour éviter de consommer de la mémoire et pour éviter que quand un routeur redémarre, rappelez-vous, c'est un ordinateur, ça peut rebooter par exemple, ou tomber en panne, pour éviter que l'état, la mémoire qu'ils ont ne disparaisse. Donc le paquet permet au routeur de n'avoir aucune mémoire, un paquet entre par le câble, il ressort presque aussitôt par un autre câble, et le routeur ne se souvient pas avec qui il communique ou quoi. Il fait juste passer des informations isolées. Donc un paquet, c'est une série de chiffres sur le réseau, avec un en-tête qui indique à où est-ce qu'on doit envoyer le paquet, c'est-à-dire l'adresse IP de destination. C'est pour ça que Benjamin Bayard disait qu'il fallait par exemple une adresse IP publique. C'est l'adresse qui va être mise dans les paquets et où tous les routeurs de l'Internet savent comment la joindre. Dans l'en-tête, donc, il y aura l'adresse IP de destination, l'adresse IP source d'origine, quelques autres informations et les données elles-mêmes. Alors effectivement, éviter de bloquer un routeur avec d'énormes paquets faisant des gigaoctets, on découpe l'information en petites données. Le paquet typique sur Internet fait moins de 1500 octets, une très petite taille par rapport aux tailles des fichiers qu'on a aujourd'hui, notamment les images et les vidéos. Et ce découpage et à l'autre bout ce réassemblage sont faits par la mise en œuvre de TCP/IP que vous avez sur votre ordinateur. Sur le logiciel de base de l'ordinateur, le système d'exploitation, Ubuntu, Android, Microsoft Windows, etc., inclut une mise en œuvre de TCP/IP, c'est-à-dire tout le logiciel nécessaire pour découper les informations en paquets, leur mettre pour chaque paquet l'en-tête qui va bien, et à l'autre bout, quand on reçoit des paquets, pour enlever les en-têtes, vérifier que tout va bien, tout remettre en ordre et refaire un beau fichier.
Merci Stéphane pour cette clarification. Une autre question peut-être, tu nous as parlé des adresses IP, tu pourrais peut-être nous donner un exemple d'adresse IP pour qu'on se la représente. Tu nous as parlé aussi des noms de domaine. Comment se fait le lien entre les deux et comment est-ce que je choisis moi les noms de domaine? Est-ce que je peux avoir croza.com, stéphane.fr, stéphane.fr par exemple si je le veux et que tu le veux, on fait comment?
Alors, chaque registre de nom de domaine, c'est-à-dire chaque endroit où on gère des noms de domaine, a ses propres règles. La règle la plus courante, c'est du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que pour Stéphane.fr, c'est pas moi qui l'ai, c'était le premier qui l'a enregistré. J'ai la chance d'avoir un nom de famille relativement peu commun, donc j'ai pu avoir mon nom facilement. Si on s'appelle Durand ou Martin, c'est évidemment plus difficile. Mais la politique dépend à chaque fois registre. Donc il n'y a pas, rappelez-vous, il n'y a pas de chef de l'Internet, donc il n'y a pas une politique unique. J'avais cité le Burkina Faso tout à l'heure, la politique d'enregistrement dans le .bf, le domaine national du Burkina Faso, elle est décidée au Burkina Faso selon des règles à eux, dans le respect des lois locales, etc. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas forcément très au courant, mais ce que je veux dire, c'est que ça suit un mécanisme d'élaboration des règles qui n'est pas forcément le même que pour .fr, le domaine national français. Donc il faut se renseigner localement. L'Internet n'a pas de chef et n'a pas d'unité à part quelques règles techniques comme le protocole IP, comme BGP, mais sinon chacun de son côté fait comme il veut. Quant aux adresses IP, c'est juste une série de chiffres. Si je vous donne l'adresse IP de mon blog, vous allez être bien embêté. Hein. C'est 2001.2.4b98 2.DC0, 2.41, 2.216, 2.3EFF, 2.FE27, 2.3D3F. C'est bien des chiffres, des chiffres hexadécimaux, donc c'est pour ça qu'il y a aussi des lettres comme A, B, C, D. Je ne la connais pas par cœur, cette adresse. Ce serait impossible, j'ai juste interrogé le DNS pour la voir pendant que tu parlais. Et c'est typiquement conçu pour être manipulé par les machines, puisque c'est conçu pour l'efficacité. Il faut aller vite. Donc c'est pour ça, par exemple, que les adresses IP sont liées à un opérateur, à un hébergeur, et qu'on a besoin des noms de domaine pour la stabilité. C'est parce qu'en étant lié à un opérateur ou à un hébergeur, on peut gérer des groupes, des préfixes d'adresses IP, des blocs d'adresses IP communs d'un coup, et ça va beaucoup plus vite. Un routeur fait passer, dans certains cas, des millions de paquets à la seconde. Donc il faut aller vraiment très vite.
Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. On n'a pas d'autres questions et on est exactement dans le temps. Donc on va vraiment te remercier une nouvelle fois. Au plaisir de t'entendre à nouveau peut-être au semestre prochain et de te croiser dans d'autres événements en France, notamment autour du logiciel libre. Merci encore à toi.
Merci, au revoir et amusez-vous bien sur Internet.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci beaucoup Stéphane. Alors vous pourrez réécouter cette émission, vous pourrez réécouter Stéphane Bortsmeyer sur graphite.net et sur l'instance donc aperi.tube sur la chaîne Upload. D'ailleurs, tous les extraits présentés aujourd'hui, tous les extraits audio ont été trouvés sur Peertube via le moteur de recherche Sepia Search. Vous pourrez retrouver donc le cours sur librecours.net et approfondir avec des exercices pratiques. La semaine prochaine, nous n'avons pas d'émission, c'est la semaine des examens à l'UTC, pas de cours non plus le 12 mai, mais donc rendez-vous le 19 mai pour un cours sur le fonctionnement du web avec Quentin Duchemin et Kian Pichou. Et puis d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur team.picasoft.net équipe W01 pour échanger avec nous. Bon après-midi.
Upload UTC, Stéphane Creusat, Audrey Guélou.